Bonjour Gilles Legendre.
Bonjour Frédéric Rivière.
Êtes-vous toujours d'accord avec Emmanuel Macron, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse ?
C'est pas mon genre. Vous savez, je suis rentré en politique à 59 ans, c'est certainement pas pour abdiquer ma liberté. Qui plus est, lui n'abdique jamais la sienne et attend de ceux qui le suivent, et qui à certains égards le servent, dont je suis, d'adopter exactement la même ligne.
Une liberté,
ne jamais
un sens
abdiquer
critique qui doit
liberté,
être conservée.
Mais bien sûr, en toutes circonstances, il nous y encourage, et dans les dialogues personnels que nous pouvons avoir avec lui de temps en temps, et dans les dialogues publics que nous pouvons être amenés à tenir, comme aujourd'hui, devant vous.
Alors qu'est-ce que votre sens critique vous conduit à penser de ce qui s'est passé hier autour du maréchal Pétain ? Parce que il ne faut pas refaire l'histoire, y compris très récente, jusqu'à hier soir, Philippe Pétain était bien parmi les 8 maréchaux auxquels un hommage devait être rendu samedi aux Invalides.
Alors, l'initiative revient au chef d'état-major des armées, qui évidemment n'a pas fait ça de son propre chef, qui est dans cette séquence de commémoration de la fin de la Grande Guerre, de rendre hommage aux militaires. Les militaires sont incarnés par leurs plus belles figures, qui sont les maréchaux. Il y en a 5 qui sont inhumés aux Invalides, un 6e qui est inhumé à Louveciennes, Joffre, et le maréchal Pétain, qui lui est inhumé à l'Île-Dieu. Nous rendrons hommage, je dis nous parce que j'assisterai à cette cérémonie samedi soir, aux 5 maréchaux qui sont inhumés aux Invalides.
Sauf que ce n'était pas ce qui était prévu jusqu'à la mise au point d'hier soir. Il était question d'un hommage aux 8 maréchaux, dont le maréchal Pétain.
Reconnaître que 8 maréchaux ont pris une part décisive à la victoire de 1918, c'est un fait historique, et qu'ils ont les uns et les autres eu à cette période-là un passé glorieux, c'est un fait historique. Le cas, évidemment, du maréchal Pétain doit être traité à part. Le président a eu raison de dire que ça a été un immense soldat jusqu'en 1918, mais que c'est aussi un homme qui a sali son image de grand soldat de manière définitive, de manière funeste, comme l'a dit le président, en prenant une responsabilité effarante, effroyable, monstrueuse dans la mise en place de l'état de Vichy et évidemment dans la déportation des Juifs et dans la mise en place d'un régime de collaboration. Les deux faits ne sont pas incompatibles.
Oui, mais la question, Gilles Legendre, au fond, vous le sentez bien à travers les réactions qui se sont exprimées hier, c'est de savoir si, dans la mesure où Philippe Pétain a été, en 1945, frappé d'indignité nationale, déchu de toutes ses décorations militaires, condamné à mort, peine qui a été commuée finalement, la question est de savoir si ce jugement ne signifiait pas que la France considérait que le Pétain des années 40 était en quelque sorte effacé, que ça le faisait disparaître.
On n'efface pas l'histoire, Frédéric Rivière. On la prend dans sa totalité et les jugements extrêmement clairs qu'a porté le chef de l'État hier sont d'ailleurs parfaitement en phase avec tous ses prédécesseurs. Le soldat Pétain peut être reconnu comme un héros de la guerre de 18.
Donc on peut
l'homme
rendre
de la
hommage.
Collaboration mérite l'indignité et le jugement définitif négatif de la nation.
Donc on peut rendre hommage au maréchal Pétain,
on
à Philippe
rend
Pétain
pas
de
hommage.
Non mais on pourrait.
Non,
si on est cohérent.
Non, on ne rend pas hommage au maréchal Pétain, on reconnaît le fait qu'il a été un grand soldat et qu'il a joué un rôle décisif dans la victoire de 1918.
Malgré tous les efforts de la majorité et du président de la République lui-même, qui, dans le cadre de son itinérance mémorielle, dialogue très directement avec les Français tous les jours, là depuis maintenant le début de la semaine, la colère ne retombe pas sur la question du pouvoir d'achat qui s'est cristallisé autour de la hausse des carburants. Est-ce que vous redoutez ce qui va se passer le 17 novembre, journée de mobilisation ?
Nous n'avons ni à le redouter, ni à l'encourager, ni à penser quoi que ce soit,
ni à faire
des pronostics.
Bien,
mais attendez, il se passera ce qui doit se passer. Ce qui compte, c'est le cap que nous avons fixé, à savoir, en effet, poursuivre une action qui avait été engagée par nos prédécesseurs, qui aujourd'hui essayent de se dérober de leurs responsabilités, qui est de mettre en place une fiscalité écologique qui a vocation à limiter les consommations de carburant, de produits fossiles, qui ont un effet désastreux sur le changement climatique et sur les équilibres environnementaux. Ça, c'est notre cap. Nous le tiendrons, nous n'en dévierons pas et nous ne reviendrons pas en arrière. Il y a, par ailleurs, du fait de l'envolée des prix du pétrole, une envolée des prix à la pompe, du carburant, diesel et essence, que nous devons pouvoir arriver à compenser très légèrement pour ceux pour lequel ça pose véritablement un problème insupportable. Ce sont d'un côté les ménages modestes qui peuvent reconnaître, rencontrer des difficultés pour se chauffer, et d'autre part ceux qui sont obligés, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative à ça, à prendre leur automobile pour aller travailler. Mais vous savez, c'est une politique d'ensemble, la politique du pouvoir d'achat. Certes, il y a une envolée du prix du pétrole et ça pèse sur le pouvoir d'achat. Mais la vérité, c'est que nous baissons par ailleurs un nombre de charges considérables d'impôts, la taxe d'habitation. Nous augmentons un nombre considérable de subventions pour les familles, pour les personnes les plus fragiles, pour les retraités les plus fragiles. Et que globalement, c'est l'INSEE qui le dit, le pouvoir d'achat va augmenter pendant 6 mois comme il n'avait jamais augmenté depuis 15 ans, y compris en prenant en compte l'effet carburant. Donc, il faut revenir aussi à la raison. On ne saucissonne pas une politique économique. Notre politique économique, elle est globale, elle est complète, elle a trois finalités. Lutter, en effet, contre le réchauffement climatique. Deuxièmement, payer mieux le travail, payer mieux ceux qui travaillent sous toutes leurs dimensions. Oui. Troisièmement, apporter une véritable protection à ceux qui en ont le plus besoin, les familles monoparentales, les personnes en situation de handicap, les seniors, crédit d'impôt pour les personnes à domicile, pour l'aide à domicile pour les seniors, le reste à charge zéro pour les lunettes, pour les dents, pour les prothèses auditives. Oui, mais attendez.
Non, mais je veux dire, on va pas tout détailler, on n'a pas le temps.
Mais il y a encore deux sujets que je voudrais aborder. Alors, bon, parce que vous voyez, on ne regarde que le carburant. Ouais. C'est tout qu'il faut regarder.
Parce que ça, c'est tous les jours. Et c'est douloureux.
Mais parce que ça devient un fait médiatique.
Oui, mais pas uniquement. C'est un fait médiatique parce que c'est un fait social aussi.
Mais d'ailleurs, nous le reconnaissons puisque nous allons très très précisément et de façon très ciblée, essayer de le corriger.
Alors, mardi matin, Emmanuel Macron, qui était interrogé sur les sondages qui placent le Rassemblement national de Marine Le Pen en tête pour les européennes, a dit, je le cite, « Je souhaite que ce soit des partis qui sont dans le champ politique républicain qui l'emportent aux européennes. » Marine Le Pen était au second tour de l'élection présidentielle. Il y a une dizaine de députés Rassemblement national à l'Assemblée. Est-ce que on peut dire que le Rassemblement national n'est pas dans le champ républicain ?
Écoutez, les députés ont été légitimement élus. Oui. C'est absolument incontestable. Mais vous savez parfaitement que depuis qu'a émergé le Front National, il y a maintenant une trentaine d'années, on fait une distinction très claire entre les partis dits républicains, c'est-à-dire eux qui se réclament.
Ça n'est pas la même chose quand c'est le président de la République qui est le garant des institutions.
Mais il n'a jamais contesté la légitimité de l'élection des députés Rassemblement National. Nous savons parfaitement que le Rassemblement National, véhicule des idées, des valeurs qui sont très clairement orthogonales, contraires aux valeurs républicaines qui ont fondé le creuset républicain. Inspiré par le rejet de l'autre, la xénophobie, l'intolérance, vous le savez aussi bien que moi.
Je voudrais qu'on dise un mot de Asia Bibi, cette femme pakistanaise,
mère de famille,
chrétienne,
catholique,
qui avait été condamnée à mort pour blasphème et finalement acquittée, mais maintenue en prison après un accord entre le gouvernement et les partis islamistes qui protestaient contre cet acquittement. Elle a finalement été libérée hier soir. Est-ce que la France doit l'accueillir ? Parce que la question se pose.
Alors, d'abord, c'est une très bonne nouvelle à laquelle la France a pris une part discrète mais efficace. Notre corps diplomatique n'a pas été silencieux ni inactif dans cette affaire. Donc il y a tout lieu de se réjouir. C'est la première moitié du sujet qui est traitée. Oui. Maintenant, c'est la sécurité d'Asia Bibi et en effet, son avenir. La France, Jean-Yves Le Drian l'a dit très clairement hier à l'Assemblée nationale, est prête à l'accueillir si elle le souhaite. Nous avons compris, par la voix de son mari, qu'elle avait peut-être d'autres options ou le souhait d'être accueillie dans d'autres pays. Ce choix-là lui appartient. Si ça devait être la France, évidemment, les portes lui sont ouvertes.
Merci Gilles Legendre.